Casanova.
Merci Vincent Dublange. Il est 7h43 à Paris, 5h43 en temps universel. On passe au sport. Bonjour Antoine Grenier.
Bonjour Marion.
En football, d'abord le CHAN 2025 débute cet été et le Niger démarre sa préparation.
À J-72, le MENA National à Prime a déjà programmé son premier match amical. Les locaux nigériens en déplacement dans le Sultanat d'Oman pour disputer un match amical à Mascate, avec pour objectif de tester l'état des troupes et avoir le regard le plus large possible sur les joueurs disponibles. C'est en tout cas la mission que s'est fixé le sélectionneur adjoint du MENA local, Hassani Debarkiri.
C'est un match amical qui va permettre à l'équipe CHAN du Niger de se préparer. C'est d'abord amener une équipe assez jeune, des nouveaux joueurs qui n'ont pas intégré l'équipe nationale et l'équipe CHAN, pour pouvoir voir leur niveau de compétitivité. Déjà, le statut est là. On n'a pas voulu amener l'équipe type comme on le dit. On a voulu sélectionner un nouveau groupe pour pouvoir participer à ce match que nous pensons être bénéfique pour nous à plusieurs mesures, pour que nous puissions avoir un état lieu de ces joueurs déjà présélectionnés ou sélectionnés pour ce match avec eux.
Oman, Niger, préparation au CHAN 2025, coup d'envoi à 16h, temps universel.
En République démocratique du Congo, jour de classico à Kinshasa.
Au stade des Martyrs, l'AS Vita Club accueille le tout-puissant Mazembe, deux équipes à la recherche d'un second souffle dans les play-offs du championnat congolais. Les Dauphins englués au 5e rang après 6 matchs disputés, tandis que les Corbeaux, eux, sont à peine mieux lotis, 6e, 2 points derrière. ASV Club TP Mazembe, coup d'envoi prévu à 14h30, temps universel.
Au Maroc, la presse annonce l'arrivée imminente de Stéphane Aziski.
L'international burkinabé pressenti du côté du Wydad Casablanca. Un renfort potentiel de poids pour le WAC qui va disputer le mondial des clubs aux États-Unis à partir du 14 juin. Aziski, 29 ans, pensionnaire des Young Africans en Tanzanie et sur les tablettes du Wydad depuis plusieurs mois désormais. Il pourrait rapidement paraffer son contrat avec le Wydad, 3e du dernier championnat du Maroc.
La Basketball Africa League avec la 3e journée de la conférence Nil à Kigali.
Deux rencontres avec un choc entre leaders, les Rwandais d'APR face aux Libyens de l'Al Hilal Tripoli. Ça sera à 17h, temps universel. Juste avant, à 14h TU, les Kenyans de Nairobi City affrontent les Sud-Africains de MBB Blue Soldiers.
Et on termine avec du cyclisme. Antoine Julien Amadori domine la 4e étape du Tour du Togo.
Le coureur français s'est imposé à Sokodé en devançant sur la ligne deux coureurs maliens, Thiemo Kodiamoutene et Yaya Diallo. Une 4e étape qui a confirmé les difficultés des coureurs togolais. Tchalim Nyuleleng, le principal espoir local, était hors du coup hier. Le sélectionneur de l'équipe nationale, Anani Kofi, cherchait une explication.
Tchalim, il a essayé de suivre les gens et puis finir la course hier en beauté. Même pas comme on a voulu, mais en 6e place. Donc ça, c'était une amélioration de notre part. Aujourd'hui, il a été dans la course, mais hélas, ça n'a pas été lu comme il voulait. Sinon, Tchalim, il écoutait ce que tu lui dis, il le faisait. Mais j'ai senti la fatigue au niveau de Tchalim. Parce que hier, il a couru seul à 98 km, c'est trop. Il reste encore deux étapes devant qui sont très difficiles. Mais pourquoi ne pas croire ?
Anani Kofi avec Gerson Devaux. Aujourd'hui, 5e étape de ce Tour du Togo. 128 km entre Sotoboa et Atapame.
Antoine Grenier pour le Journal des Sports.
RFI, toute l'actualité. Marion Cazanov.
7h47 à Paris, à la une ce mardi 20 mai. 2 heures au téléphone, mais peu d'avancée. Donald Trump et Vladimir Poutine se sont appelés hier. Le président américain n'a pas obtenu de cesser le feu en Ukraine, mais promet que des négociations vont avoir lieu entre Moscou et Kiev. 44 morts dans des frappes israéliennes à Gaza. Aujourd'hui, annonce ce matin de la défense palestinienne de l'enclave. Israël a intensifié encore sa guerre sur la bande de Gaza alors que plusieurs pays durcissent le ton face au gouvernement israélien. Au Tchad, l'opposant Succès Masra est toujours en garde à vue après son arrestation vendredi pour incitation à la haine. Il devrait être entendu ce matin par les enquêteurs. À Taïwan, un an après son investiture, le président Lai Ching-te se dit prêt à parler avec la Chine, alors que ces derniers mois, Pékin a multiplié les incursions près de ce territoire que la Chine considère comme sien. Et puis le festival de Cannes, à mi-parcours, hier la cinéaste Julia Ducournau a fait son grand retour avec Alpha, 4 ans après sa palme d'or pour Titane. On est ailleurs en direct de Cannes dans le prochain journal pour en parler. Les juges de la Cour internationale de justice ont fini par trancher un litige vieux de plusieurs décennies entre le Gabon et la Guinée équatoriale. Les deux pays revendiquaient leur souveraineté sur plusieurs îles et la CIJ donne raison à Malabo, Une décision contestée par l'opposant gabonais Alain-Claude Billy Binze, qui a été le dernier Premier ministre d'Ali Bongo et qui a terminé second à la présidentielle du 12 avril, mais avec seulement 3% des voix. Alain-Claude Billy Binze s'exprime aussi sur l'exfiltration de la famille Bongo la semaine dernière. En Angola, il est notre invité Afrique et répond aux questions de Christophe Boisbouvier.
Alain-Claude Billy Binze, bonjour.
Bonjour.
Sur les trois îlots disputés entre le Gabon et la Guinée équatoriale, la Cour de la Haye vient de donner raison à la Guinée équatoriale. Quelle est votre réaction ?
Vous savez, c'est une catastrophe, c'est une grosse déception. C'est un peu comme si on se retrouvait amputé d'un membre. Le Gabon a toujours revendiqué sa souveraineté sur ses îles et nous avons toujours tout fait en tant que nation pour demeurer unis sur ce sujet et nous allons continuer à être unis dessus. Pour l'heure, nous ne pensons pas faire polémique parce qu'il s'agit d'une question qui concerne la nation et dans ces sujets-là, il faut être rassemblés dans un premier temps.
Depuis 1972, l'îlot Mbagné est occupé par la marine gabonaise. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ?
Non, elle n'est pas occupée. Cette île, elle est gabonaise. Si nous y sommes allés, c'est parce qu'on considère comme gabonaise. Si vous dites occupé et que j'accepte ce terme-là, ça veut dire que c'était pas à nous. C'est notre île. On y a fait jouer tous nos droits. On y est installé. Se passe là-bas des activités gabonaises. Maintenant, on va voir ce qui va se passer au vu de la décision qui vient d'être prise.
Est-ce qu'un accord à l'amiable peut être trouvé entre Libreville et Malabo ?
Écoutez, nous ne sommes pas des États qui, dans ce dossier, avaient privilégié la confrontation. Je crois que le sujet d'une discussion est toujours ouvert et on verra ce qui va se passer. Voilà.
Alain-Claude Billy Binze, l'exfiltration de la famille Bongo vers l'Angola, c'était dans la nuit de jeudi à vendredi dernier. Vous en pensez quoi ?
Ce que je pense de ce dossier, c'est que le pouvoir actuel, il a fonctionné sur la dissimulation, sur la manipulation, et ça se termine comme ça s'est vu aujourd'hui, à savoir l'opacité totale. Rien n'a été dit des montants qui sont supposés avoir été détournés, rien n'a été dit des complicités éventuelles, et donc c'est un dossier qui, dès le départ, a été très politisé, et ça se termine dans la confusion totale, avec une absence par les autorités gabonaises d'une communication et n'assume pas ce qui s'est passé. Si on regarde bien ce dossier, je crois que les autorités gabonaises avaient même intérêt à ce qu'il n'y ait pas procès, contrairement à ce qui a été dit. Parce que s'il y avait eu procès, ces autorités n'auraient pas pu tenir par rapport aux révélations qui auraient pu être faites. D'une certaine manière, on leur a sauvé la mise en laissant partir Sylvia Bongo et Nourdine.
Alors vous dites qu'il n'y aura pas procès, mais le procureur général de Libreville a dit le contraire vendredi dernier. Il a dit que malgré ce transfert, la procédure continuait et qu'il y aurait procès.
Le procureur relève du ministère de la Justice, qui relève du gouvernement, qui est géré par le président, qui est chef du gouvernement. Et je ne vois pas du tout en quoi est-ce que ce qu'il a dit ce jour-là va être opposable à ce qui a déjà été fait, à savoir la dissimulation. Lorsqu'il y a eu des négociations, personne n'a été informé qu'il y avait négociations. On découvre un beau matin que, bon, ils ne sont plus là. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne sont plus là ? Personne n'assume cela au niveau de l'État, au niveau du gouvernement, et on envoie un procureur un peu jouer les pompiers. S'il y a des éléments dans le dossier, qu'on juge, qu'on dise quels éléments. Aujourd'hui, c'est opacité totale. Quel est le montant qui a été détourné ? C'est possible que l'argent ait été détourné, mais c'est lequel argent ? Si ce montant a été détourné, c'est quel montant ? Qui l'a détourné ? Avec quelle complicité ? Avec quelle banque ? Avec quel comptable public ? On n'en sait rien du tout. Rien.
Alors, après le transfert de la famille Bongo, un des avocats français de cette famille, François Zimeray, a déclaré que pendant leurs 20 mois de détention, Sylvia et Nourdine ont été dépossédés de leurs biens à l'occasion de séances de torture. Est-ce que cela vous paraît crédible ?
En tout cas, on n'a pas entendu les autorités gabonaises dire le contraire. C'est une accusation très grave de la part de quelqu'un qui a été ambassadeur de France, qui est avocat au barreau de Paris, qui est spécialisé dans la question des droits de l'homme. Il doit savoir de quoi il parle. Il a vu ses clients, moi je ne les ai pas vus, et donc s'il l'affirme, c'est qu'il a des éléments pour l'affirmer. Il faut maintenant que les autorités gabonaises s'expliquent.
Est-ce que vous pensez que Sylvia et Nourdine Bongo ont été fortement incités à révéler leur numéro de compte bancaire et à accepter le transfert de leur fortune aux nouvelles autorités gabonaises ?
Ce qu'on attend aujourd'hui, c'est que dans ce dossier-là, que le gouvernement s'explique. C'est très grave comme accusation de torture, d'extorsion, c'est très grave.
Mais après tout, Alain-Claude Billy Binze, si des gens qui ont détourné de l'argent public rendent cet argent et acceptent des transferts de fonds au bénéfice de l'État gabonais, est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle au final pour la population gabonaise ?
Il faut qu'il y ait la transparence. Si l'argent a été détourné et rendu au pouvoir gabonais, il a été rendu à qui ? Quel montant ? Transféré sur quel compte ? À usage de qui ? Il faut qu'il y ait la transparence dessus. Or, sur ce dossier-là, ce qui marque les esprits, c'est l'opacité. Si l'argent a été détourné et retrouvé, qu'on dise quel montant, il a été retrouvé où et il est transféré à qui, quand, comment, de manière transparente. Aujourd'hui, beaucoup de populations se sentent flouées, trahies.
Alain-Claude Billy Binze, Monsieur le Premier ministre, merci.
Et l'invité Afrique de RFI, Alain-Claude Billy Binze, répondait aux questions de Christophe Boisbouvier. La chronique des matières premières. Aujourd'hui, on parle du commerce du bois qui souffre lui aussi de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, même si une trêve est en ce moment en vigueur. On parle du bois, surtout des grumes, c'est-à-dire les troncs d'arbres qui ont encore leur écorce. Marie-Pierre Olfan, l'exportation des grumes américaines est ralentie par une barrière moins visible que les taxes douanières.
Oui, il s'agit d'une barrière sanitaire liée, selon les douanes chinoises, à la présence de petits insectes ravageurs dans le bois américain. Les grumes américaines ont donc été immobilisées dans les ports et les importations de nouveaux lots venant des États-Unis suspendues, officiellement pour des raisons de biosécurité. Une mesure sanitaire qu'il est difficile de ne pas interpréter comme une forme de rétorsion commerciale, puisqu'elle a été prise juste après l'annonce de l'instauration de droits de douane par Donald Trump.
Et le réchauffement tout relatif entre la Chine et les États-Unis peut-il avoir un impact sur ce commerce du bois ?
Alors, ce n'est pas encore le cas, mais cela va peut-être venir. Maintenant qu'une partie des tarifs douaniers a été mise en pause pour 90 jours, la Chine a accepté de suspendre, voire même de supprimer, les mesures non tarifaires prises en rétorsion contre les États-Unis depuis le 2 avril. En théorie donc, l'interdiction sanitaire pourrait être concernée, sauf que cette mesure est antérieure, elle date de début mars. Il se dit cependant dans le secteur qu'une solution pourrait être trouvée. Les Américains, premiers exportateurs de feuillus dans le monde peuvent difficilement se passer de leurs clients chinois.
En attendant, Marie-Pierre, l'industrie américaine du bois brut est frappée de plein fouet.
Oui, c'est une des victimes inattendues de cette guerre commerciale. Avant le mois de mars, environ 40% du bois américain partait sur le marché chinois. C'est donc un coup dur, particulièrement pour l'est des États-Unis et la région montagneuse des Appalaches. Aujourd'hui, l'industrie américaine de l'ameublement peut difficilement absorber beaucoup plus de volume. En revanche, à l'export, le Vietnam s'impose comme un acheteur de plus en plus important de bois américain et permettra peut-être en 2025 aux États-Unis d'écouler une partie de ce qui aurait été exporté en Chine.
La chronique des matières premières. Merci Marie-Pierre Olfan. Donc c'est sur ces difficultés de l'industrie américaine du bois dans cette guerre commerciale. Dans une vingtaine de minutes, dans Aujourd'hui l'économie, on parlera cette fois de l'industrie chinoise qui se maintient à peu près, on le verra, malgré les taxes douanières.
RFI Matin.
. 7h55 à Paris, 5h55 en temps universel. On part au Gabon, plus précisément dans le plus ancien et plus connu des parcs nationaux, l'Opeokanda. En plus de sa richesse et de sa faune et de sa flore, il est classé à l'UNESCO pour son patrimoine archéologique. Les équipes du parc font tout pour le préserver malgré leurs moyens limités. Le parc de l'Alopé, sauvegarder le patrimoine naturel et humain du Gabon. C'est un grand reportage de François Mazet. On en écoute un extrait.
Arrêt suivant à l'écomusée de l'Alopé. Le bâtiment construit en 1996 est modeste. Les équipes des parcs nationaux aimeraient un agrandissement pour attirer davantage de visiteurs que les 700 passés en 2024 et relancer les programmes éducatifs et les visites des écoles de la région. Mais les fresques colorées des façades attirent l'œil. On y trouve des objets permettant de découvrir les traditions des peuples okandais, gourdins, sagaies, gibecières, pièges à poissons et instruments de musique, ou encore les attributs du juge coutumier. Wilfried Madidango en est le guide attitré.
Là, c'est chez les okandais. Là, c'est la tenue d'un juge coutumier. Il y a un ancien qu'on nomme juge, vu son
expérience.
Son expérience, sa sagesse, et il gère les autres. Donc, quand il y a une situation, on la règle. Si quelqu'un n'a pas respecté le précepte de ne pas aller pêcher dans une mare ou dans une forêt sacrée, on ne va pas voir les autorités. On gère ça à la coutume. Allez-y. Ça, c'est la queue du buffle, qui est symbole de pouvoir, parce que le buffle, c'est un animal
fort.
Ici, on a le kendo, pour les appels. Et la gibecière, symbole de tout garder, quoi.
Mais on voit ça.
On a 400. Donc chacun peut représenter une situation typique. Oui, oui. Si celui-là annonce la chasse, le mariage, les naissances, ça peut être la mort, la pêche, la cueillette. Donc très tôt le matin, entre 5 et 6 heures, si le crieur passe au long du village avec ce kendo, les villageois savent.
C'est la chasse.
C'est codé. La palabre qu'on doit sur le chef,
on se l'annonce.
Surtout, l'écomusée est une introduction à la richesse archéologique du parc national de l'Opéokanda. Au moins 150 sites d'intérêt témoignent du peuplement très ancien de cette région qui semble avoir été une voie de passage importante durant la préhistoire il y a 400 000 ans.
La version intégrale de ce grand reportage de François Mazet a été écoutée sur RFI à 19h40, temps universel ou en podcast sur le site de RFI ou encore sur l'application Pure Radio. On se retrouve dans une minute.
Bonjour, c'est Juan Gomez. Au Tchad, quelles peuvent être les conséquences politiques de l'arrestation de Succès Masra ? L'opposant est accusé d'avoir diffusé un audio incitant à la violence en lien avec les récents affrontements intercommunautaires dans le sud du pays. Nous lançons le débat.
Appel sur l'actualité
33 9 693 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
À tout à l'heure sur RFI.
Technologie, le plus grand événement start-up et tech en Europe, revient du 11 au 14 juin à Paris, porte de Versailles. C'est le lieu où les discussions se concrétisent, les opportunités business se créent et les partenariats prennent vie. Viva Technologie, vibrez au rythme de l'innovation. Plus d'informations sur vivatech.com. En partenariat avec France Média Monde.
L'information continue sur la chaîne WhatsApp de RFI.
Chaque jour, vous pouvez retrouver directement sur votre téléphone les principaux titres de l'actualité internationale et les analyses de RFI, ainsi qu'une sélection de nos émissions. Pour nous suivre, c'est simple. Allez sur l'onglet Actu de votre application, abonnez-vous à notre chaîne et rejoignez la communauté WhatsApp de RFI.
RFI sur WhatsApp. L'actualité autrement, l'information quand vous voulez.